qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Merci Seigneur, parce que tout est pour ta gloire ce matin. Nos vies, chacun et chacune, ce matin, nous sommes devant toi et il n'y a que toi. Tu es avant toute chose et tu seras après toute chose. Que toute gloire te revienne. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'il est bon de louer le Seigneur, tout pour sa gloire. Vous savez, c'était la formule des réformateurs. Soli Deo Gloria. Tout pour la gloire de Dieu. Et c'est bon de pouvoir vraiment se terminer avec ce chant qui est le Seigneur. Merci l'équipe de louanges, en tout cas. Soyez bénis, en tout cas. Merci beaucoup. On a eu la rencontre des responsables, des différentes responsables dans l'église, responsables de secteur, samedi matin. Et ça a été un petit peu aussi le sens aussi de cette réunion. On a dit que tous nos services, tout ce qu'on fait, est d'abord pour la gloire de Dieu. Nos dons, nos qualités, nos services, tout est pour la gloire de Dieu avant toute chose. Et que l'adoration est le but de toute chose. Et c'est ce qui restera. Quand ce monde passera, c'est ce qui restera. Il restera cette adoration et cette gloire de Dieu qui ne passera pas. Amen. Voilà, j'aimerais vous inviter à prendre un texte pour notre lecture ce matin, notre méditation, dans Éphésiens, donc l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 et les versets 18 à 20. Je crois que ça va s'afficher. Éphésiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Faites en tout temps. Moi, c'est prier en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi. Que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse, avec fougue, le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Voilà quelques versets ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter, que Paul prononce, l'apôtre Paul, et ce passage commence par « prier en tout temps, prier en tout temps ». On pourrait même dire « ne vous arrêtez pas de prier ». Voilà vraiment une demande que le Seigneur nous fait. Vous savez, souvent, je trouve qu'en tant que chrétien, on se pose cette question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? C'est vrai, hein, c'est une question qui nous traverse tous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et c'est vrai que très souvent, on a besoin de directions précises dans notre vie. On a besoin des fois de chercher la face de Dieu pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Mais il y a plein de choses qu'on sait déjà par la parole de Dieu. En fait, la Bible nous révèle la volonté de Dieu sur plusieurs sujets et qu'on n'a pas besoin de chercher. Et beaucoup de choses sont dites dans la Bible sur la volonté de Dieu et Dieu veut sa volonté et que nous prions. Dieu veut qu'on prie. Et j'avais envie de ce matin, c'est un peu fondamental ce que je vais parler, c'est un peu des bases, mais j'avais envie de nous arrêter sur cette demande du Seigneur. Priez en tout temps, ne vous arrêtez pas de prier. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que depuis la rentrée, il y a un peu tout qui repart à 200 à l'heure. C'est vrai qu'on a eu 2 ans de pandémie, pas mal de choses s'étaient arrêtées, on n'arrivait plus à se projeter pour faire des choses. Et j'ai l'impression maintenant que, en tout cas, on a cette impression-là que c'est derrière nous, on ne sait pas, mais que les gens ont envie de refaire des choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en suspens, qui repartent. Et en tout cas pour moi, et je le vois dans l'église, même en dehors, que ça repart, quoi. Il y a beaucoup de choses. Et j'ai une alerte, je me dis, le danger pour ma vie, ce serait de foncer dans toutes ces choses-là et de ne pas prendre le temps de prier, de passer à côté de ça, de me projeter dans tout ce qu'il faut faire et de perdre cette habitude qu'on a eue pendant la pandémie, qu'on a peut-être redécouvert Peut-être certains n'ont pas, ça n'a rien changé, ils sont restés stables, parce qu'ils le faisaient déjà avant. Mais cette habitude, quand on avait du temps, de prendre du temps avec Dieu et de prier. Et je pourrais relever plein de choses importantes sur la prière, mais j'aimerais en relever quelques-unes et qu'on n'oublie pas ce moyen tellement important dans nos vies qui peut faire tellement de choses, qui peuvent nous garder de tellement de choses et qui peuvent avoir un tel impact dans notre vie. Et j'aimerais relever plusieurs choses par rapport à l'impact de la prière dans nos vies. Alors on en pourrait en relever plusieurs, mais j'en relevais quelques-uns avec vous, qui me semblait important de rappeler aujourd'hui et dans la période dans laquelle nous vivons en tant qu'Église. Une chose qui me paraît importante à propos de la prière, et j'aimerais que ça puisse nous encourager aussi à prier plus. Vraiment, c'est rappel. C'est dans le verset de Matthieu, donc le livre, l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et au verset 41, c'est Jésus qui parle et qui va dire « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière nous aide à résister à la tentation. Il y a aussi dans le Notre Père, cette prière qui dit « Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais éloigne-nous du mal. » La prière, ici, il est clairement dit « veiller, prier » afin de ne pas entrer en tentation, d'être tenté, d'être victorieux sur la tentation. La tentation, c'est quelque chose d'universel pour nous tous. Je pense que tout le monde, ici, qu'on soit jeune ou moins jeune, est tenté d'une manière ou d'une autre. Qui n'a jamais été tenté parmi nous ? Même Jésus, qui lui était sans péché, a été tenté. Et il a même été victorieux sur la tentation. Vous connaissez tous ce verset très connu dans Pierre, l'épître de Pierre au chapitre 1 et les versets 5, chapitre 5 et le verset 8, qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Le diable, son travail, c'est son travail, c'est son job. Et il le fait bien. Et on a eu une pensée dimanche passé, je ne sais pas si c'est dimanche passé ou il y a deux semaines, où quelqu'un a partagé cette pensée qui voyait l'Église dans la présence de Dieu, l'Église réunie, et qui voyait un serpent qui se promenait entre les rangs et qui cherchait une faille, qui cherchait à entrer. Et c'est son job, c'est ce qu'il fait. Et il n'attend que ça. Il est rusé. Nous sommes engagés dans un combat, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Il n'y a pas de zone tampon où on peut dire, bon là, je suis en pause. On est engagé dans un combat. Et parfois, on oublie que le diable est ce lion rugissant. Et on peut se faire avoir. Et il veut nous dévorer. Ne l'oublions pas. Vous savez, un lion, quand c'est petit, c'est mignon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Moi, j'étais aux eaux de Beauval il y a quelques années. Et ils venaient d'avoir une portée de 3 petits lionceaux magnifiques. Et ces petits lionceaux, c'est comme des peluches, quoi. On a envie de les prendre avec ses petites pattes, ce petit regard mignon, etc. Et c'est magnifique, c'est vrai. C'est là, c'est dans nos bras. Mais je me suis fait la réflexion de dire, mais si ce lion il grandit, donc ça va devenir déjà un peu plus imposant. Bon, s'il a grandi avec nous, peut-être il va s'habituer à nous et puis il va rester docile. Mais c'est quand même une bête sauvage. Et si vous avez un lion qui passe de peluche à lion adulte et que vous l'avez chez vous, il y a le risque à un moment donné qu'il vous attaque. Parce que c'est une bête sauvage. Et parfois, j'ai l'impression que dans nos vies, il y a des petits lions mignons, des petits péchés mignons de nos vies qui sont là, qui sont installés, avec qui on les trouve mignons comme tout. Mais ça peut grandir, ça peut prendre une place. Et l'ennemi n'attend qu'une seule chose, à un moment donné où il peut entrer et faire du dégât dans vos vies et vous dévorer. Et ça peut être des portes des fois dans nos vies, des situations, des petites choses inoffensives, en première apparence, qui vont commencer à grandir, grandir, et donner accès à l'ennemi dans nos vies. Et il va pouvoir s'infiltrer et nous dévorer. Et on va se retrouver dans des situations d'oppression terribles, des situations où on ne sait pas, mais on dit, mais comment j'en suis arrivé là? Et ça a commencé tranquillement, tout gentiment. Vous savez, le diable, quand il s'est approché de Ève, il n'est pas venu avec une grosse voix pour lui faire peur. Il avait une petite voix toute douce. Dieu a-t-il réellement dit? Ça commence comme ça. Et ça amène le doute. C'est ça la tentation. C'est ça. Et personne d'entre nous, ici présent, qu'on soit jeune dans la foi ou expérimenté dans la foi, qu'on soit un ministère, qu'on ait fait des grandes choses pour Dieu, personne n'est à l'abri de la tentation. Et personne ne peut prétendre avoir assez de force, de caractère et de capacité humaine pour y résister. Et il n'y a que la prière, il n'y a que dans la présence de Dieu que je peux avoir la force de pouvoir résister aux tentateurs. Humainement, en tout cas, humainement, devant le tentateur, je ne fais pas le poids. Et Jésus est l'exemple parfait. C'est l'homme, l'être humain qui est notre modèle pour notre vie. Et si on regarde la vie de Jésus, il a été tenté alors qu'il était dans le désert et il a remporté la victoire sur les tentations de l'ennemi. Et vous savez comment il a remporté cette victoire? Parce qu'il était dans le jeûne et la prière. Il dit qu'il était pendant 40 jours dans le jeûne et la prière. Il était dans la communion avec Dieu. Il était en bonne condition spirituelle. Il était fort. Et c'est ce qui a fait que l'enfer tout entier, le diable en personne même, n'arrivait pas à rendre le péché attrayant pour Jésus. Voilà ce que fait la prière dans nos vies. Nous avons des faiblesses, chacun. Et ces faiblesses sont différentes pour chacun d'entre nous, par rapport à notre caractère, par rapport à notre histoire de vie, par rapport à ce qu'on a traversé. Donc on est tous différents par rapport à l'objet, à la manière dont on peut être tenté. Mais je me dis combien de fois, dans des situations où on aurait pu résister, on a cédé, combien de fois nous aurions pu résister si nous avions été plus en prière. Dernièrement, le Seigneur m'a parlé parce que j'ai vécu une situation qui m'a un petit peu, qui m'a un peu miné parce que je me suis fait avoir dans une situation. Vous savez, la tentation, des fois, on la voit pas arriver, hein, c'est violent. Et j'ai vraiment manqué le coche, quoi. J'ai vraiment manqué le coche. Je me suis fait avoir, mais comme un bleu. Et le Seigneur m'a dit, mais c'était une période où je priais pas beaucoup. Et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu as assez prié? Si tu avais prié, et le Seigneur ne m'a pas jugé par rapport à ce que j'ai vécu. Vous savez, j'ai vraiment le sentiment de me sentir comme l'apôtre Pierre. Vous savez, l'apôtre Pierre, quand il a dit, ouais, devant tous les disciples, moi, je te trahirai jamais, jamais je te trahirai. Et puis, quelques temps après, face à la pression de la foule, Jésus qui est arrêté, ah, mais tu étais avec eux, toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été lâche et il a renié Jésus. Et j'avais vraiment ce sentiment, mais de dire, mais Seigneur, j'aurais dû parler à ce moment-là. Il y a eu une situation où j'étais mis sous pression et j'ai été tellement lâche. Seigneur. Et je m'en suis voulu. Mais le Seigneur, avec son amour, est venu et m'a dit, mais si tu avais été plus avec moi, tu aurais été fort dans cette situation. Le Seigneur ne m'a pas jugé. Moi, j'admire les gens qui sont forts et courageux. Franchement, je les admire. Parce que dans ce moment-là, je ne l'ai pas été. Et combien de fois nous n'aurions pas péché si nous avions prié un petit peu plus et un petit peu mieux? Alors, utilisons cette force qu'est la prière. Laissons cette puissance par ce moyen formidable, quand même, qu'est la prière, pour nous aider à résister à l'épreuve et la tentation. Et peut-être si ce matin, d'entre nous, certains traversent des moments difficiles, des tentations particulières, tentés par ceci ou par cela. Alors je vous encourage à prier. Je vous encourage aussi à demander la prière. Parfois on a besoin d'être ensemble. Redoublons ensemble dans la prière. Une des deuxièmes raisons pour laquelle j'aimerais nous encourager, m'encourager à prier, c'est que la prière nous rend fort aussi dans le Seigneur. C'est un peu des bases que je vous rappelle, mais je pense que c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur dans la période dans laquelle on vit. On dit souvent que l'exercice physique nous rend fort, vous êtes d'accord ? On est dans une société quand même où on bouge moins qu'avant. Et on n'arrête pas de nous conseiller, les médecins, les gens n'arrêtent pas de nous dire « mais il faut qu'on bouge plus, on est une société sédentaire ». On nous dit qu'il faut marcher tant par jour, il faut avoir une activité physique. Et on montre qu'un petit peu d'activité physique fait beaucoup de bien au corps. Et le renforce, renforce contre aussi son immunité, contre beaucoup de choses. Hein, on nous dit qu'il faut, plutôt que prendre l'ascenseur, monter par l'escalier. Enfin, si vous habitez au 5e, peut-être vous montez jusqu'au 3e en ascenseur. Vous faites les deux derniers étages à pied. On nous dit qu'il faut s'arrêter un arrêt de bus avant votre arrivée pour marcher un peu plus, parce qu'on est dans une société où, par rapport à nos parents, grands-parents, qu'est-ce qu'ils marchaient, qu'est-ce qu'ils travaillaient beaucoup plus. Ils n'avaient pas besoin de salle de fitness pour compenser. On est beaucoup assis, etc. Quelque part, l'exercice physique nous rend plus forts. C'est la même chose dans le monde spirituel. La prière est un exercice spirituel. Et comme tout exercice, c'est difficile. Vous êtes d'accord ? Parfois, il faut. Ça reste quand même. On a du plaisir quand même à le faire. On a quand même du plaisir à faire du sport. Mais ça, il y a quelque chose qui coûte quand même pour le faire. Hein, vous êtes d'accord ? Si vous avez sans doute expérimenté ça. Hein, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Il faut un peu se pousser hein, au départ. Et il faut arrêter ce qu'on est en train de faire. Et puis se dire, ah oui, c'est vrai, j'avais prévu de courir aujourd'hui. Ah oui, ah, on regarde par la fenêtre, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Ah vraiment, bah, allez Christian, vas-y, allez. Ah, il faut mettre les chaussures, il faut mettre toute la tenue, j'ai mis où mes chaussures? Ah, c'est un signe, je dois pas aller dehors aujourd'hui. Allez, allez Christian, il faut y aller. Mais vous savez, après, une fois qu'on l'a fait, ça nous fait du bien. On est mieux pour travailler, on se sent mieux. Et il faut une intentionnalité. Il faut une certaine discipline. Alors, discipline, c'est peut-être un mot qui est plus à la mode aujourd'hui. Parce que je pense que l'être humain, l'homme et la femme, naturellement, n'est pas disposé à la prière. Nous ne sommes pas disposés à cela. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient comme ça. Et il y en a un, en tout cas, qui va essayer de nous empêcher de prier. En tout cas, il y a déjà notre chair qui résiste, bien sûr, mais il y en a aussi un qui, lui, va mettre toute son énergie à nous empêcher à le faire. Et il y a un combat qui se lève souvent. Comme par hasard, au moment où vous voulez prier, ah oui, j'ai oublié que je dois faire ça. Comme par hasard, au moment où vous voulez prier, il y a un téléphone qui sonne, il y a un enfant qui pleure, etc., etc., etc. Comme par hasard. Donc non seulement c'est déjà difficile, mais il y a aussi une opposition qui est là. Alors, je ne dis pas qu'il faut voir dans tout ce qui se trouve autour d'une opposition, mais c'est intéressant de discerner et d'être des chrétiens matures et de voir quand c'est une demande urgente ou quand ça ne l'est pas, quand c'est autre chose. La prière nous renforce. Et en lisant ce passage d'Éphésiens, ce chapitre 6, c'est intéressant de voir que tout ce chapitre, en fait, il est parlé aussi, juste avant des versets que je vous ai lus, il est parlé de l'armure du chrétien. Et souvent, on s'arrête après l'armure du chrétien, mais on ne lit pas la suite, qui sont les versets que je vous ai lus. Vous connaissez tous l'armure du chrétien, hein ? Casque du salut, ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, casque du salut, on n'a rien oublié. Le bouclier de la foi, oui, c'est ça, exactement. Vous avez on connaît bien ces textes. Mais des fois, on s'arrête là, à la lecture de ça, et on ne continue pas avec les versets qui suivent. Et on oublie de mettre ça, on dit, voilà, il faut revêtir l'armure du chrétien. OK. Mais quel est le rapport avec la prière? Est-ce que Paul a changé de sujet? Maintenant, il parle de la prière, juste avant, il parlait de l'armure. Je pense que déjà, dans la syntaxe du texte, il n'y a rien qui nous dit que Paul a changé de thème. On parlait de l'armure, maintenant, il parle de la prière. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Je pense que le lien, c'est que la prière nous rend fort. Et qu'une armure, la meilleure armure qui existe, avec l'équipement le mieux, plus à la pointe, mais que si cette armure est sur un mannequin de cire, ça ne va pas tellement faire peur à l'ennemi, vous êtes d'accord? Les mannequins de cire, c'est dans les musées. Hein, et ce n'est pas quelque chose... Donc cette armure-là, il faut qu'elle soit portée par quelqu'un de fort. Prenons encore un autre exemple. Si c'est une belle armure, magnifique, essayez d'imaginer une armure de chevalier, j'aurais dû venir en armure, mais c'est difficile à trouver. Une belle armure, magnifique, et cette armure-là, vous la mettez sur quelqu'un qui est un petit peu chétif, qui est un petit peu pas en forme, qui est même malade, ça va pas faire peur à l'ennemi, ni ça va pas faire de grands effets. Mais si vous mettez cette même armure sur une personne qui est costaud, et je pense notamment à deux jeunes ici qui sont des soldats, je pense Thomas, je vois aussi Loïc là-bas, Loïc aussi, costaud, je ne sais pas si vous voyez Loïc là. Si vous mettez sur quelqu'un qui est soldat, hein, parce qu'ils sont dans l'armée, et qui est soldat, qui est costaud, entraîné, musclé, vous mettez cette armure sur cette personne-là, alors là, ça va faire du dégât. Alors, c'est bien de revêtir l'armure, mais prions, prenons ce moyen de la prière pour être fort, pour être entraîné, pour pouvoir utiliser cette armure avec force et faire du dégât. Personne, ni vous ni moi, ne pouvons vivre une vie de victoire sans la prière. Même si on a toute l'armure de Dieu, sans la prière, ce serait faible, sans la prière, ce serait inefficace. Et il nous donne ce moyen d'être fort dans le Seigneur, ce moyen de nous entraîner, de nous exercer, c'est la prière. La troisième chose que j'aimerais faire avec vous, que j'aimerais aussi relever au niveau de la prière, pour nous encourager à prier, c'est que la prière nous donne la force pour le service. Une des plus grandes effusions du Saint-Esprit est arrivée où ? Elle est arrivée à Jérusalem, d'accord ? Et c'est arrivé quand ? Donc il y a 2000 ans. C'est arrivé sur qui ? 120 personnes. Et ces 120 personnes, elles étaient où ? Dans une chambre haute. Et qu'est-ce qu'elles faisaient dans cette chambre haute, ces 120 personnes ? Elles développaient une stratégie sur comment envahir l'Empire romain et développer l'Église. Elles mangeaient des bons gâteaux pour vivre un temps de communion fraternelle, une bonne tarte, tous ensemble, avec des échanges sur la Bible, sur l'Ancien Testament. Non, ils étaient en prière. Ils s'étaient mis ensemble pour prier. Et à ce moment-là, tout à coup, il y a un vent violent qui est venu et qui a rempli toute la maison. Et vous connaissez la suite, ils ont été remplis du Saint-Esprit, il y avait des langues de feu. Ça a bouleversé cette ville de Jérusalem, des gens sont venus, Pierre a prêché, des gens sont convertis et l'Église s'est développée. Les gens sont entrés dans le service, il y a eu vraiment un mouvement incroyable. Et cette merveilleuse action du Saint-Esprit est arrivée alors qu'ils étaient réunis ensemble dans un seul et même but, en prière, pour recevoir la promesse de Dieu. Tout commence dans la prière. Et vous savez, la prière, c'est un lieu, des fois même, un lieu caché, intimiste. Jésus nous encourage, dit « ferme ta porte et mets-toi en prière devant ton Père ». Et les grandes choses commencent là, dans la prière, dans une chambre, dans un petit groupe de 120 personnes. 4 siècles plus tard, il y avait des chrétiens partout dans l'Empire romain. C'est incroyable ce que la prière peut faire, peut mettre en mouvement l'Église, peut nous lancer dans le service, nous amène à faire des choses qui nous dépassent. Ils n'étaient pas seulement en train de parler de la prière ensemble. Et c'est très bien de parler de la prière, on le fait ce matin. Ce n'est pas mauvais en soi. Ces 120, ils n'étaient pas seulement en train de lire des livres sur la prière. Et il y a des très bons livres qui sont écrits sur la prière, ce n'est pas ça que je dis. Mais ils étaient en train de prier. Vous voyez la différence ? Ils priaient. C'est au contact du feu qu'on s'enflamme. Alors, j'ai eu cette image que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Pour illustrer justement le fait qu'on doit prier et mettre en pratique ce commandement finalement de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Un briquet. Et j'aurais pu prendre une bougie aussi, ou prendre autre chose. Mais ce briquet est composé de deux choses pour qu'il y ait la flamme. Vous êtes d'accord ? Il y a du gaz dans la chambre, et il y a une pierre qu'il faut actionner avec le pouce, qui va créer une étincelle qui est frottée, et qui va produire la flamme. Donc voilà, je sais comment ça fonctionne, je peux en parler, je peux vous l'expliquer. Je peux même, si vous faites des études poussées en physique, ou voilà, vous pouvez expliquer, je regarde Laurent, expliquer ce qui se passe au niveau peut-être chimique, bon, c'est peut-être plus la chimie, au niveau de l'étincelle, comment ça produit. Je peux même vous expliquer la physique quantique. Je peux aller très loin dans l'explication. Mais malgré tout cela, ça ne produit rien d'autre. Ça ne produit rien. Il ne se passe rien. Et pour cela, il faut que j'actionne, je fasse un mouvement, je sois intentionnel, je me mette en mouvement dans la prière. Et il faut que l'étincelle et le produit entrent en contact. Et il faut qu'il y ait ce contact pour qu'il se produise quelque chose. Il y a non seulement un mouvement, mais il y a ce contact entre l'étincelle et le produit. C'est au contact de Dieu qu'on s'enflamme. C'est dans la présence de Dieu qu'on va recevoir sa pensée. C'est au contact de Dieu qu'on va être rempli de sa puissance, qu'on va recevoir une force nouvelle et qu'on va s'enflammer. J'arrive plus, voilà, c'est bon. Je me suis entraîné. Hein. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser un briquet. Et c'est au contact, c'est à son contact qu'on va s'enflammer et qu'on va briller. Et c'est dans la prière que dans des situations où on est dans l'obscurité, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas quoi penser, ou qu'on a des idées noires, ou qu'on a des choses qui nous font qu'on ne voit rien, et c'est là que la lumière s'allume et que les choses s'éclairent. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un, je suis quelqu'un qui est en chemin, et il me disait, plus j'avance, plus je suis dans ce cheminement avec Dieu, plus je prie, plus on se rencontre, plus ce brouillard qui était dans ma vie, où je ne comprenais rien, qui était épais, est en train de se dissiper. Ça, c'est la puissance de Dieu qui ne s'obtient qu'au moyen de la prière et du contact avec lui. Alors, approchons-nous encore plus dans la prière. C'est incroyable ce qui peut se passer dans la prière. Quand on lit les livres des Actes, mais tout était dans la prière. Tout était fait, tout partait, tout commençait dans la prière. Tout était... C'est incroyable comme c'est présent partout. J'aimerais terminer, je ne sais pas si j'ai le temps. Mais je vais passer rapidement sur le dernier point, parce que je pense que le temps passe trop vite. La prière comme source de paix et de tranquillité. Je vais quand même, je pense que c'est quand même bien que je développe ce point. Je vais prendre le temps. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, je ne sais pas pour vous, mais dans le monde dans lequel nous vivons, il y a de l'énervement, il y a du stress, il y a des tensions, il y a de l'anxiété. Moi, je trouve que les pressions au niveau du travail ont tellement augmenté par rapport... Alors, on ne peut pas comparer, on n'a pas vécu les périodes d'avant, mais j'ai l'impression qu'il y a des pressions, les gens veulent tout de suite, enfin, dans tous les domaines. Il y a du stress, Il y a même de l'anxiété par rapport à l'avenir. Alors ça, pas besoin de vous le décrire, hein, tout ce qu'on entend dans les médias. Et c'est des catalyseurs d'anxiété, les médias, pour ça. Il y a toutes sortes de stress, mais il y a une réalité aussi qui est là, bien sûr. Et des fois, on se dit, mais on est dans une société, on est en 2022, quoi. 2022, on se dit, mais il y a un tel progrès technologique. On devrait avoir une vie beaucoup plus paisible et tranquille, quoi. On a des outils, on a de la technologie à notre service qui est là pour nous rendre service. On a des super outils comme ça pour mieux communiquer et qui sont génératrices de stress, qui sont génératrices d'anxiété. Les réseaux sociaux, c'est super, mais en même temps, si vous êtes un YouTuber et que vous devez sortir une vidéo une fois par semaine, il y a une pression qui est là et il faut toujours... Et tous ces outils qui sont super deviennent une source de stress. Des fois, j'ai l'impression que le progrès nous a parfois rattrapés et piégés. Et ce matin, j'aimerais qu'on se rappelle de ce que le Seigneur dit à ses enfants, à chacun d'entre nous. À ses filles et ses filles. Il y a ce verset que vous connaissez très bien quoi, et qu'il est bien de se rappeler dans Philippiens au chapitre 4 et les versets 6 à 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien. » Ah bon ? Mais en toute chose, il n'y a pas un sujet sur lequel par la prière et la supplication, par la prière, le moyen de la prière, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et qu'est-ce qui se passe ? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. La paix de Dieu. Quand je lis ce verset, je me suis dit, mais ok, on fait connaître nos besoins à Dieu, faites connaître à Dieu vos demandes, et il vous répondra. Je m'attendais un peu à ça à la suite. Et il répondra à toutes vos demandes. Mais ce n'est pas écrit ça. Mais Seigneur, attends, je vais réécrire parce que je crois que tu t'es trompé. Non, je ne pense pas que le Seigneur s'est trompé. Et la paix de Dieu, voilà la réponse, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on se fasse du souci tout le temps ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit continuellement dans la crainte et les tensions ? Alors je ne dis pas que dans notre vie, il n'y a pas des moments de stress, des moments défiants, des moments où on n'a pas le moral, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je me pose la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on le soit de manière continuelle ? Tout le temps. Dieu veut, c'est sa volonté, veut que tous nous soyons dans une grande paix et une grande joie et que ce soit durable. Et un de nos exemples, de nouveau, c'est Jésus. On en revient à Jésus, le modèle. Celui vers qui on doit fixer nos regards et regarder comment il a vécu et apprendre de lui. Jésus va dire à ses disciples, dans Jean 14, verset 27, au chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quand est-ce qu'il dit ça, Jésus ? On est au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Est-ce que c'est au début de son ministère ? Non. C'est dans les derniers discours, juste avant qu'il se fasse crucifier. Donc Jésus dit ça à ses disciples, alors qu'il sait que dans quelques heures, ce qu'il attend, c'est qu'il va être fouetté, il va être jeté sur une croix rugueuse, on va lui clouer les mains et les pieds, il va souffrir le martyr physiquement, et plus qu'une souffrance physique, il va vécu une souffrance spirituelle, il va porter le péché de l'humanité, de toute l'humanité. De tous les pires péchés que vous pouvez entendre, les pires choses. Et la Bible dit qu'il n'a pas seulement porté les péchés, il a été fait péché, dit Luc, je crois. Une souffrance telle. Et malgré ça, il dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix. » C'est incroyable. Hein ? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, vous êtes d'accord ? Il en avait... Et il avait tellement de paix qu'il était capable d'en donner. C'est incroyable. Ça me dépasse. C'est formidable. Et son secret, vous savez qu'est-ce qu'il a fait juste avant ? Juste avant qu'il ait cette souffrance à laquelle il était. Il était dans le jardin de Gethsémané et il priait. Son secret, c'était la prière. Il est passé par les temps d'angoisse. Mais il y avait cette paix qui vient seulement dans la présence de son Père. Jésus passait du temps dans la prière. Et pourtant, quand je pense à Jésus, qui est quand même Dieu fait homme, et je me dis, mais si lui, il avait besoin de passer du temps dans la prière, à combien plus forte raison, moi, vous, chacun d'entre nous, on a besoin de passer du temps avec notre Père. Avons-nous des soucis pour demain ? Prions. Sommes-nous atteints par du stress, des situations compliquées qui nous enlèvent la paix et la joie ? Prions. Ne nous faisons pas voler notre paix et notre joie. Oui, nous vivons dans une situation complexe. Nous avons des défis pour ce siècle énorme. Et on entend des mauvaises nouvelles. Mais prions. Voilà ce matin ce que je voulais vous rappeler, qui me semble parfois une évidence, mais qu'on a tendance des fois à oublier, peut-être dans notre course de la vie. Vous savez, on a tellement de défis dans nos vies, tellement de demandes, que ce soit au travail, des pressions, des choses à faire. Des fois, on n'a même pas le temps qu'on peut passer à côté de ces moments où Dieu nous demande. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Dieu nous demande de prendre ce temps, de passer du temps dans la prière. Et pas un petit peu. Et c'est difficile peut-être des fois de prier. Je suis d'accord que c'est un combat. Mais c'est un combat qui va nous permettre de vivre des choses extraordinaires. Dieu veut qu'on prie. Et Dieu veut qu'on prie au nom de Jésus-Christ, qu'on s'approche de lui au travers de Jésus. Je vous invite donc, pour terminer cette prédication, à quoi ? À prier, voilà. Je crois que c'est bien de mettre en pratique. Hein ? Seigneur, nous sommes là devant toi, humbles face aux défis qui sont devant nous. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai voulu gérer ma vie, mes situations, mes combats par moi-même. Pardon des fois de m'être appuyé sur moi-même et pas d'être venu dans ta présence et de m'appuyer sur toi au travers de la prière. Seigneur, ma prière pour notre Église, pour ma vie, c'est que tu nous enflammes. Que cette flamme brûle en nous, Seigneur. Et que ce matin, si des personnes n'ont plus cette flamme, cette joie, cette paix, ce matin, tu la leur redonnes. Ce matin, tu nous invites tout à nouveau en tant qu'Église à prier ensemble, mais aussi individuellement, à revenir à toi, à ce fondement. Seigneur, je te prie pour chaque génération ici. Chaque génération peut s'approcher de toi au moyen de la prière. Oh Seigneur, viens nous enflammer, Seigneur. Viens, Seigneur, rallumer un feu et un zèle pour passer du temps avec toi dans la prière. Viens, Seigneur, faire cette œuvre en nous, Seigneur. Peut-être qu'on n'a pas envie de prier, mais Seigneur, tu peux déposer en nous cette soif et ce désir de prier. Viens, Seigneur, nous rapprocher de toi encore. Et Seigneur, comme les disciples qui t'ont vu prier, qui ont dû être tellement impressionnés de la manière dont tu priais, la communion que tu as avec ton Père, ils ont dit cette phrase absolument incroyable. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Seigneur, j'ai envie de te dire, enseigne-moi à prier ce matin. Enseigne-moi, réapprends-moi à prier. Réapprends-moi à m'approcher de toi. Réapprends-moi à pas juste seulement que ce soit une discipline pour dire j'ai fait des coches, mais que ce soit quelque chose qui fasse la différence dans ma vie, qui produise du résultat dans ma vie, qui me garde de toute tentation, de tout, qui me rend fort et qui me rend victorieux. Et que l'Église puisse briller pour ce monde aussi. Amen.